Organisé par une trentaine de structures locales et nationales, le Mois décolonial est un cycle d'événements culturels et politiques ayant lieu à Grenoble pour tenter de déconstruire l'imaginaire colonial. L'imaginaire colonial, c'est cet héritage du passé qui constitue le socle d'un racisme et d'une violence structurelle encore présente dans notre société. En faisant dialoguer paroles intellectuelles, artistiques, universitaires ou citoyennes, le Mois décolonial entend proposer une lecture différente, interroger notre manière de faire société et lutter contre les assignations. Pour cette troisième édition, Radio Campus Grenoble a réalisé des émissions et des podcasts.
Épisode 6, décoloniser les imaginaires dans les Outre-mer, avec Kenja, Michel, Laura et Juanita.
Bonjour, alors on est ravis de vous retrouver donc sur Radio Campus Grenoble 90.8, l'équipe de micro-ondes pour une émission spéciale Mois décolonial. Donc aujourd'hui, autour de la table, on a plusieurs invités qui ont participé au Mois décolonial édition 2023, la troisième édition. Et alors, est-ce que vous voulez bien vous présenter ?
Moi, c'est Ali Babar Kenja. Donc je suis venu de Martinique à l'invitation du Mois décolonial. Et avec toujours plaisir, puisque j'étais depuis quelques années déjà, hein, peut-être même depuis l'origine, on suit ça de près. Et donc j'ai eu une conférence, ça fait une dizaine de jours, autour de la domination économique coloniale dans les DOM. Et j'ai participé à quelques événements, voilà.
Du coup, bonjour, moi c'est Juanita. Du coup, je suis la présidente du CTNE, le Comité Traite Négrière et Esclavage. On travaille sur les mémoires de la traite négrière et on lutte activement contre les discriminations. Et également du CASOMI, la présidente du CASOMI. On travaille, nous, essentiellement, du coup, sur la valorisation des populations d'outre-mer sur toute la GLO. Et dans le cadre du Mois décolonial, on a organisé trois événements. Un premier événement sur les réparations avec la Ligue panafricaine Moja et du coup le CTNE. Le scandale du chlordécone avec Club Évasion Outre-mer et le CASOMI. Et la domination économique et coloniale du coup avec le CASOMI et le CTNE du coup, nos deux associations ensemble. Donc voilà.
Bonjour à tous, moi je m'appelle Laura, je suis membre de la Ligue panafricaine Umoja depuis 2 ans maintenant. Je suis présente à Grenoble par rapport à 3 événements qu'on a pu contribuer à organiser dans le cadre du Mois décolonial.
Bonjour Michel, multicasquette. Donc, je suis membre du CTNE. Et je suis membre aussi de la Ligue panafricaine Umoja. Donc moi, je suis de la section Grenoble. Hein. Je représente la section Grenoble. Et dans la section Grenoble, je représente aussi la section enfance, éducation et jeunesse, dans laquelle Laura fait partie. D'ailleurs, Laura, ça serait bien qu'il nous explique un peu ce que c'est la Ligue panafricaine Umoja.
Mais oui, qu'est-ce que c'est ?
J'attendais cette superbe transition. Donc merci beaucoup, Michel. Donc la Ligue panafricaine Umoja, elle existe depuis 2012. C'est une association politique indépendante qui vit essentiellement grâce aux contributions de ses militants. L'objectif j'aimerais dire à court terme, mais soyons réalistes, donc à moyen, long terme, c'est vraiment la libération de l'Afrique et les États-Unis d'Afrique. À court terme, et notamment au niveau de la diaspora, notre rôle principal, c'est de fédérer la diaspora afro-descendante, afro-ascendante, parce qu'on m'a corrigé récemment, noire, pour faire court, autour de thématiques qui nous concernent pour trouver des solutions à adresser à notre communauté. Et moi, particulièrement, mon cheval de bataille, ce sont les enfants. Donc, je fais partie du pôle. Donc, j'appartiens à la section Île-de-France et je suis vraiment sur le pôle jeunesse, famille et enfance. Donc dans ce cadre-là, pour vous donner un exemple plus concret de nos actions, l'année dernière, nous avons organisé la journée des enfants afrodescendants sur 3 villes. Donc l'idée, c'était vraiment d'avoir un impact sur cet événement à Paris, Grenoble, avec l'intervention de, enfin, la coordination de Michel, et aussi Toulouse. Donc c'était vraiment une journée qu'on voulait dédier aux enfants. Donc 80% du programme était vraiment dédié aux enfants, avec en toile de fond l'idée de l'estime de soi, fierté, mise en valeur de notre patrimoine culturel, entre autres, à travers un certain nombre de spécialités. Donc ça pouvait être culturel, gastronomie, musique, histoire. Et par rapport à cette journée qui a eu lieu donc en septembre dernier et que nous allons renouveler avec plaisir en 2023, nous avons mis en place une exposition Black Panther, du film au Black Panther Party.
Et du coup, cet après-midi, il y avait justement un atelier adressé aux enfants qui faisait suite à une discussion qu'il y avait hier sur le thème justement de ce film, Black Panther. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé? Et c'était quoi un peu le... D'accord, et ben, il fallait y être, tant pis, chers auditeurs, auditrices, on espérera que ça se renouvellera l'année prochaine.
On voulait vraiment que cette exposition qui a demandé beaucoup de travail, de temps, d'énergie, de ressources, on voulait qu'il y ait eu un impact au-delà de la journée de septembre dernier. Et on a saisi cette occasion qui nous a été donc donnée par le mois décolonial et donc par Michel de donner un peu plus d'ampleur à cet événement. Donc l'exposition, après être restée en Île-de-France, elle est à Grenoble depuis plus de 2 mois en fait, dans l'espace Le Patio. Et donc, par rapport au mois décolonial, on a pu hier, avec plaisir, animer une conférence, table ronde autour de cette thématique. Donc vraiment, le titre, c'était Black Panther, le film, hymne à l'Afrique ou appropriation culturelle. Donc c'était vraiment très intéressant d'aborder ce thème-là dans une ambiance très familiale, très, très accueillante. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé ce côté cocooning qu'on a peut-être moins en Île-de-France, puisque c'est plus étendu, on est plus éclaté. Alors qu'ici, on a vraiment l'impression d'être dans une famille, donc c'était agréable. Et puis, les échanges étaient riches. Donc, on était en petit comité, mais c'était qualitatif. Et suite à ça, aujourd'hui, on a animé un atelier. Donc, pour les enfants, cette fois, c'était l'occasion de faire découvrir l'exposition donc, qui est au patio, à des enfants, leur expliquer, puisque cette exposition, elle a été vraiment pensée pour les enfants. Donc, il y a différentes stations qui font référence à différentes thématiques qu'on retrouve dans le film Black Panther. Donc, il y a la thématique du continent source de richesse, les royaumes d'Afrique, la thématique de la femme. Enfin, il y a différentes thématiques. Et les enfants ont un carnet de bord. Et ils peuvent explorer justement cette exposition à travers le carnet de bord. Donc, on voulait qu'ils soient complètement autonomes, mais on voulait que les parents soient là. Donc, dans le carnet, on a mis des petites questions. Demande à papa, demande à maman. Et c'est très ludique. Il y a des dessins, des rébus, des choses comme ça. Et donc, ça a été l'occasion aujourd'hui de le refaire découvrir avec des enfants. Et c'est toujours un plaisir parce qu'elle est toujours différente, cette exposition, puisque je l'adapte aux enfants. C'est les enfants qui me conduisent, même si moi, je sais le message que je veux faire passer. Mais je me laisse guider, en fait, par les enfants. Et elle s'adapte vraiment à tous les âges, en fait, de 5-6 ans à jeunes adultes, parce qu'elle a été pensée pour être vraiment assez large.
Et du coup, ce que vous disiez, un peu ce que vous expliquiez, c'était aussi l'idée de pouvoir redonner une certaine fierté noire aux enfants, et qui est nécessaire par tout ce que crée la domination comme dépréciation de soi, et aussi le manque de modèles. Et ça, c'est un peu un sujet qu'on a retrouvé dans ta conférence, Kenja, où tu parlais beaucoup de cette domination, comment elle peut être intégrée. Et du coup, toi, tu n'as pas parlé des enfants spécialement, mais j'imagine que ça marche pour tout âge. Est-ce que tu veux nous parler un peu plus de cette idée-là?
Bien sûr. En fait, j'ai orienté mon intervention par rapport à la proposition qui m'était faite, la domination économique dans les néocolonies. Et je me suis rendu compte que systématiquement, ce type d'intitulé nous dirigeait déjà vers quelque chose de préconçu, qui est vraiment la domination économique l'économie, les monopoles et les colons, ce qu'on appelle les béquets chez nous, donc les colons descendants d'esclavagistes, etc., et qui gardent une mainmise sur l'économie du pays. Mais à mon avis, le gros problème des Antilles, c'est que justement, on s'est trop focalisé sur cet ennemi-là. Et à trop se focaliser sur l'économie stricto sensu, c'est-à-dire les faits, les rapports de production, de consommation, etc., on oublie que ben, pour qu'un système puisse tenir, puisqu'un système matériel puisse tenir, il a besoin d'une espèce d'environnement, d'enveloppement, un système de sens qui lui met son cadre, qui lui pose ses lois, qui lui pose un petit peu... et que cette question était vraiment une question essentielle. Moi, je suis un... Je vais faire un petit coup d'intello, là, mais je suis un fervent de Gramsci qui avait posé la question de l'hégémonie culturelle. C'est-à-dire qu'avant qu'on puisse renverser un système établi, il faut qu'on puisse prendre un leadership au niveau de sa pensée, de la manière dont... de l'imaginaire, en fait. De l'imaginaire qui nous anime lorsqu'on se projette sur non plus simplement la déconstruction, mais aussi la construction de l'après. Et ces questions justement liées, je posais quelques préalables en disant que ben, ces questions liées à la domination étaient en général passées sous silence pour aller droit au fait et qu'il fallait un petit peu décortiquer tout cette immatérialité, quoi. Il n'y a pas que les choses matérielles, il y a aussi dans cette soumission, etc. Il faut comprendre voilà, ces mécanismes de soumission volontaire. Je passe du coq à l'âne, mais dans un des événements ultérieurs, au cours d'un débat, il y a une dame qui sort, il y a pire que le mâle blanc, il y a le bounty. Et ça a choqué, ça a fait les gens réagir. Mais ben, je pense que cette dame, elle a sorti ça parce qu'elle avait mal évalué justement tout cet aspect de l'immatérialité, de l'imaginaire et de comment on construit ou déconstruit. Et c'est vrai que les enfants sont visés parce que ça passe par l'école, ça passe par les lois, ça passe par tout un appareillage qui souvent est masqué, qu'on n'identifie pas comme ça du regard, mais qui joue le rôle fondamental de permettre justement ensuite que les choses se mettent en place. Donc j'ai voulu attirer l'attention sur... C'était un petit peu décousu parce que c'est une réflexion qui est assez récente pour moi de partager ça. Aux Antilles, c'est difficile de dire... il faut qu'on aille au-delà de l'opposition au béquet. Il y a tellement de choses comme par exemple le chlordécone qu'on a pu aussi examiner, enfin la problématique du chlordécone. Il y a tellement de raisons de se révolter contre ces colons. Mais je tiens à souligner que le mouvement du Irak en Algérie, les jeunes défilaient en demandant l'indépendance. Et si je prends la situation d'Haïti, pareil, c'est pas lorsqu'on a éliminé les colons qu'on a éliminé la problématique coloniale. Et ça, Fanon nous l'a répété, rabâché, et que maintenant, il faut qu'on aille dans ces dimensions imaginaires, culturelles, superstructurelles, etc. Quoi. Et c'est un petit peu ce que j'entends dans ta proposition, de déconstruire un petit peu... la proposition d'aller vers Wakanda, etc., pour déconstruire un petit peu l'imaginaire qu'on nous impose et voilà, qui fonctionne à la hiérarchie, à la race, à la stigmatisation, on connaît un peu. Quoi.
Et tout à l'heure, tu as utilisé le terme bounty. Est-ce que tu peux le définir pour les personnes qui nous écoutent, qui connaîtraient pas ?
Bounty, un terme très péjoratif qui désigne en fait quelqu'un, un noir qui aurait le cœur blanc, qui serait noir d'apparence et blanc intérieurement. Et notre réaction au moment où c'est sorti, c'est de dire oui, mais qu'on le veuille ou non, les bounty sont des victimes. Parce que c'est le résultat de cette volonté d'assimiler les gens et de les déraciner, etc., et de leur faire croire qu'ils sont autre chose que ce qu'ils sont. Et donc, nous, on les considère comme des victimes, pas du tout comme un choix assassin de quelqu'un qui aurait décidé de s'arracher de sa race, et de, tu vois ce que je veux dire. Et que c'était un peu injuste, c'était la double peine, quoi, de taper en plus sur quelqu'un qui a subi cette aliénation-là, quoi.
D'où l'intérêt, j'ai envie de rebondir sur ce que tu viens de dire, d'où l'intérêt d'avoir conscience qu'en fait il y a un double combat de mon point de vue. Il y a un combat vers l'extérieur, mais il y a un combat aussi vers l'intérieur de notre communauté, parce que je pense qu'il y a vraiment, j'ai entendu le terme de neurocolonisation, c'est-à-dire que nous-mêmes parfois nous sommes acteurs de cette maltraitance ou de cette colonisation, et d'où l'intérêt de commencer par les enfants en fait. Ouais. Parce que c'est vraiment que c'est à ce moment-là que la graine, elle est plantée. Ouais. Et c'est vraiment important, je pense, d'agir dès le plus jeune âge, même si on ne peut pas, aujourd'hui en tout cas, changer le système éducatif, mais il y a d'autres moyens, puisqu'on a quand même les parents, les grands-parents, il y a une cellule familiale qui est encore présente, en tout cas dans les familles afrodescendantes. C'est vraiment d'agir à ce niveau-là pour semer les bonnes graines. Parce que... nous sommes aujourd'hui dans un certain nombre de cas, même si le terme bounty est péjoratif, dans un certain nombre de cas, nous sommes nos propres bourreaux, en fait, ouais. Parce qu'on a une inconscience, en fait, de ce qu'on véhicule, et on est quand même dans un système capitaliste, matérialiste, et c'est difficile d'aller contre le mouvement général. Mais vraiment, l'idée, je pense que l'essentiel, c'est d'avoir conscience de ça pour pouvoir déconstruire. Alors, c'est vrai qu'au début, lorsqu'on a pris le blockbuster américain, Black Panther, levée de bouclier, mais non, tu n'es pas militante, mais pourquoi tu vas faire l'apologie? Tu sais bien que ce sont les valeurs américaines. Oui, d'accord. Mais l'impact d'un Black Panther, d'un Marvel, nous, on l'aura jamais, hein, faut être réaliste. Donc, au lieu de se plaindre et de faire la politique de l'autruche, on a décidé de s'approprier, de se réapproprier ce sujet pour le décortiquer, pour l'analyser, pour le servir à nos enfants en disant, ben voilà, vous avez des raisons d'être fiers parce qu'en fait, à la racine de ce film, il y a un certain nombre de références culturelles dont vous pouvez être fiers, la place de la femme, la richesse, la beauté du continent, etc. On l'a utilisé, on se l'est réapproprié. Et en fait, nous, il y avait une double stratégie derrière. C'était déjà attirer du monde. Donc, on a été purement capitaliste. Ouais. On a dit, il faut attirer du monde. On met Black
Marketing,
Panther. Hein.
Ouais.
Exactement. On savait que les enfants allaient venir, les papas, les mamans. Enfin, c'était toute la famille. Mais derrière, ce qu'on voulait faire, c'est faire le lien avec le Black Panther Party. Parce qu'aujourd'hui, quand on google Black Panther Party, ça arrive peut-être à la troisième place, là où personne ne va. Donc, on s'est dit... avec ses enfants, on va faire le lien en fait entre Black Panther Party, le personnage principal de la mère, donc Ramonda, dont le réalisateur il s'est inspiré en fait de Myriam Makeba pour parler de ce personnage et la façonner. Donc Myriam Makeba, Stokely Carmichael, Black Panther Party. Donc en fait, on a fini par le Black Panther Party. Et à la fin de l'expo, les enfants, ils ont pu se photographier dans le fauteuil de Newton du Black Panther Party. Ils sont partis avec le tatouage du Black Panther. Donc on voulait vraiment qu'ils oublient, mais qu'ils partent avec leur super-héros, T'Challa. Bon, ça, on ne peut pas le détrôner, même s'il est mort. On ne peut pas le détrôner. Mais ils partent aussi avec le bagage. Ah oui, il y a eu le Black Panther Party. Oui, c'était une association d'Afro-Américains qui ont lutté pour leurs droits, qu'il y avait des injustices, qu'il y a eu un terrorisme d'État, etc. Donc, c'était vraiment joué sur les deux tableaux. Et je pense qu'en fait, aujourd'hui, il faut agir comme... avec les codes d'aujourd'hui, parce que sinon on va être complètement distancé. Et les codes, c'est réutiliser ce qui marche pour attirer les gens.
Mais moi, ma question, en fait, je vous la pose là. En tout cas, pour moi, ma réflexion, tu disais qu'il y avait ce combat intérieur et le combat extérieur. Et peut-être, Michel, je parle sous ton contrôle, mais je fais un parallèle avec petit djihad, grand djihad, etc. C'est-à-dire, pour moi, il y a un ordre entre les deux. Je veux dire, on ne gagnera pas le combat extérieur si... de manière intérieure, on n'a pas fait la paix en soi, le ménage, etc. Et on ne pourra même pas diriger nos enfants vers cette direction si nous-mêmes, on n'est pas prêts. C'est-à-dire, les parents qui décoincent leurs enfants sur cette question-là, c'est qu'eux-mêmes ont fait... Donc je pense qu'il y a un ordre entre les deux combats, et que le combat intérieur, le combat pour la désaliénation, la déconstruction de nos schémas, il est fondamental, en fait.
Alors, la question ne m'est pas adressée, mais je me sens...
Ah non, à vous, bien sûr,
je me sens obligée d'intervenir. Aujourd'hui, c'est tout neuf. On va dire que la fin de l'esclavage, la résurrection de l'Afrique, la mise en valeur de l'Afrique, ça, c'est tout neuf, c'est tout nouveau. C'était il y a 2 heures, quand on regarde sur l'histoire de l'humanité par rapport à la question de la colonisation, c'est tout neuf, c'était il y a 2 heures. On est encore empreint de séquelles, on est encore empreint de cette douleur. Il n'y a qu'à voir sur la manière dont on organise les réprimandes au niveau des Antilles. C'est clair, c'est net et c'est limpide. Ce sont exactement... C'est sous le même registre et sur les mêmes modalités que celles qui étaient subies par les esclavisés à l'époque. Donc aujourd'hui, on est dans les séquelles. Pour pouvoir travailler sur la question de l'estime de soi, de la confiance et de la réaffirmation du soi, je pense qu'il est important, et ça c'est un avis personnel, qu'on ait des personnes, des coachs, des psychologues, des psychiatres, des personnes qui soient de la communauté, qui soient absolument intégrées dans la communauté, et pas juste des psychologues culturels qui se sont intéressés, etc. Mais on a besoin de personnes qui sont dans la communauté, qui travaillent sur ces questions et qui sachent composer avec le fait que, avec justement cette partie de l'histoire et cette partie aussi des mémoires, parce que pour moi, l'histoire n'existe pas sans la mémoire, mais ça, c'est un autre débat. Mais du coup, quelqu'un qui est imprégné, en fait, de cette mémoire de la colonisation, qui est imprégné, que ce soit physiquement, moralement, émotionnellement, de ces mémoires, pouvoir travailler sur les questions, mais en étant parfaitement intégré dans cette société et dans la manière dont on peut trouver des solutions pour pouvoir avancer sur ces questions. En tout cas, sur la question de l'estime de soi, confiance en soi, etc., des jeunes, mais aussi des adultes, parce que les adultes aussi doivent faire ce travail pour stopper, enfin pour casser la chaîne. Après, c'est tout neuf, c'est récent, c'était il y a 2 heures, quand on regarde l'histoire de l'humanité depuis la décolonisation.
Alors, je me permets de revenir sur ce double combat, en fait, dont on parle, parce que pour moi, c'est un peu l'histoire de la poule et l'œuf, en fait. Par quoi on peut difficilement hiérarchiser, parce que je pense qu'il y a un moment, il y a un équilibre à trouver entre les deux, et que l'équilibre des uns n'est pas l'équilibre des autres, et qu'il y en a qui ont besoin de prendre l'énergie de l'extérieur pour trouver la force de l'intérieur, et d'autres qui ont besoin pour trouver leur force à l'intérieur pour la donner à l'extérieur. Et chaque personne est différente, je pense, et même chaque génération peut être différente, même en fonction de l'endroit où on vit, en fonction de si on vit dans le béton, si on vit dans la nature, je pense que les énergies sont différentes. Par conséquent, ce qui se passe dans un quartier, ça ne se passe pas forcément quand on est dans la forêt, ou quand on est au pays, dans la terre des ancêtres. Donc voilà, donc je pense qu'effectivement, c'est un peu le combat de la question de la poule et l'œuf, qui est en premier, voilà et tout. Mais le plus dur, c'est arriver à trouver un équilibre et à respecter l'équilibre des autres.
Excuse-moi, on peut avancer sans être guéri aussi. Enfin, Dieu merci, on n'a pas besoin d'attendre d'être guéri pour pouvoir avancer. Sinon, c'est vite fini, on s'arrête maintenant.
Et c'est sur cette remarque porteuse d'espoir qu'on se fait une petite pause musicale. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Campus Grenoble 90.8 FM et on est en émission spéciale à l'occasion du mois décolonial. Et on s'écoute Myriam Makeba, comme vous en avez parlé, Pata Pata.
Pata pata, ia mama, ia. segue, and everybody starts to move as soon as Pata Pata starts to play.
À l'écoute de Radio Campus Grenoble 90.8. C'est donc une émission spéciale qui est menée par l'équipe de Micro-Ondes à l'occasion du mois des coloniales. Et on est donc toujours avec Laura, Kenja, Juanita et Michel pour parler de racisme et surtout d'antiracisme.
Moi, en tout cas, ce que je trouve intéressant, c'est la place que vous prenez dans ce combat-là. Enfin, je veux dire, dans ma tête, en tout cas, il n'y a pas si longtemps, en tout cas, l'antiracisme en France, c'était encore « touche pas à mon pote », entre guillemets, exact. C'est-à-dire exact. Un blanc qui dit à un autre blanc « touche pas à cette personne qui est encore chosifiée », etc. Et on est passé, au contraire, à un antiracisme qui est, je dirais, réellement, qui est pensé par des personnes afrodescendantes. Et c'est ça qui m'interpelle.
Très nettement. Moi, je pense qu'il y a... Il y a un point, en tout cas, qui marque le point de bascule. Enfin, le moment de bascule, c'est le moment où la pensée décoloniale prend place. C'est-à-dire, on n'est plus dans l'anticolonialisme, on est dans la décolonialité. Et donc, c'est la déconstruction, c'est nous donner des outils à nous raciser pour déconstruire, mais c'est aussi permettre à la société globale, y compris les Blancs et les autres, de comprendre que c'est quoi la dimension systémique et que ça personne n'y échappe et que ça s'impose à tous et que à partir de ce moment l'enjeu n'était plus dans les colonies, dans l'espace lointain, dans des temps reculés, mais que les objectifs étaient ici et maintenant, que l'État était un acteur fondamental dans cette diffusion des modes de pensée, etc., des hiérarchisations, et que donc on était tous concernés, en fait. C'est-à-dire, peut-être pas du même point de vue de ces discours de stigmatisation, mais la décolonialité a ouvert vraiment la perspective sur des possibilités d'alliance, d'intersectionnalité, etc., et que chacun puisse... prendre sa part dans l'opposition à ces machines qui nous fabriquent, quoi. Et que c'était plus simplement la cause des racisés, que ça devenait qu'il fallait décoloniser l'État, décoloniser la société, et que ça passait par tout un chacun. Voilà.
Ouais, moi, ce que je trouve très intéressant, alors je suis militante depuis peu, mais ce que je trouve intéressant et revigorant, c'est de voir... toutes les initiatives, en fait. On a vraiment l'impression qu'on arrive à un moment où on n'attend plus, on se prend en charge. et on construit notre propre histoire, on utilise des outils, on n'attend pas d'être guéri pour avancer, on avance parce qu'on ne savait même pas qu'on était malade. En fait, c'est que depuis récemment qu'on sait que c'est marqué dans notre ADN, qu'il y a certains réflexes, qu'il y a certaines habitudes, certaines choses qu'on réplique de génération en génération, mais qui datent en fait de ces traumatismes-là. Donc on se rend tout juste compte qu'on est malade. D'ailleurs, parfois, pour avancer, vaut mieux ne pas savoir que tu es malade. Mais bon, ça, c'est un point de vue personnel. Mais moi, ce que je trouve hallucinant, c'est toutes les initiatives que je vois dans tous les domaines, que ce soit artistique, culturel, musique, intellectuel. Ça pullule de partout, de partout. Parfois, ça me fait complètement halluciner parce que je n'arrive pas à suivre, en fait. Mais à chaque fois, il y a des nouvelles initiatives, des nouvelles idées, des nouveaux collectifs, etc. Et je trouve que la solution, c'est par là, en fait, c'est cette pluralité. Parfois on se rencontre, parfois on se sépare, mais je pense que ça, c'est hyper important, parce que même si on est issu de la même histoire et qu'on est tous afro-descendants, afro-ascendants, etc., on va pas avoir la même sensibilité, en fait. On a quand même des histoires personnelles différentes, des trajectoires, des sensibilités. Et le discours d'un historien ne te parlera pas, et peut-être que le discours d'un artiste ou d'un slammer va te parler. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est cette explosion, en fait. Je sais pas, c'est vrai que ça va dans tous les sens, mais cette explosion, je trouve ça très riche et enrichissant et encourageant.
Mais je pense que c'est la répercussion de l'idée de système. C'est-à-dire que l'anticolonialisme, à la limite, fixait des objectifs assez physiques. Il fallait attaquer tel point, telle chose. Et à partir du moment où on se rend compte que c'est systémique, ben, le système, il est diffusé dans toutes les dimensions de la vie. Et on a tous un point où on peut se raccorder à lui pour dire « je le bloque là ». Et je crois que c'est ça qui est en train de se faire. C'est-à-dire que, de même que lui, il est systémique, enfin que ce système nous agit de manière systémique, ben de même, systématiquement, à quelque endroit où on est, on a possibilité d'interrompre la grande machine, la cyber-machine. Et les gens s'en rendent de plus en plus compte.
Et du coup, Laura, tu disais que toi, tu avais commencé à militer récemment. Est-ce que tu veux nous dire qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer à militer? Puis si les autres, vous avez envie de nous parler aussi de comment, à un moment, il y a eu peut-être ce basculement, ou que ça a été progressif, que le militantisme rentre dans vos vies.
Bon, alors moi, je vais être très modeste, parce que parmi ces militants de longue date, moi, je suis militante depuis 2 heures. Je reprends ton excuse. Je ne sais pas, mais moi, c'est le confinement qui m'a délivrée, en fait. C'est le confinement, travail à la maison, donc j'ai arrêté les infos parce que j'en pouvais plus. Je me suis mise sur YouTube, c'est devenu ma nouvelle télévision, et puis George Floyd, quoi. C'est vraiment ça. Alors, le fait que je suis maman, après, je me suis demandé, mais qu'est-ce que tu lègues à tes enfants? C'est quoi ce monde? Je me suis beaucoup, beaucoup interrogée, j'ai commencé à regarder, à m'interroger, à lire, et c'est à partir de là que, bon, au bout de, après le confinement, je me suis dit, bon, c'est bien d'être derrière ton écran, mais bon, après, tu fais quoi? Et à partir de là, je me suis posé des questions et j'ai voulu m'engager pour faire du concret, quelque chose de vraiment concret pour avancer à mon niveau et par rapport aux enfants.
Du coup, moi, je continue. Moi, c'était parce que j'étais énervée. Tout simplement... j'étais énervée parce que j'avais raté une journée de boulot, parce que en France, la commémoration de l'abolition de l'esclavage, la journée de la commémoration de l'abolition de l'esclavage, moi j'avais compté le 22 mai, c'était même pas encore le 10 mai, ou en tout cas j'étais pas au courant, n'était pas férié. J'avais raté une journée de boulot, j'étais même pas au courant, je m'étais juste pas préparée pour aller au travail, parce que pour moi c'était pas un jour où on travaillait. Du coup j'étais énervée. J'étais énervée parce que encore une énième fois on m'avait demandé d'où je venais alors que je suis française, et qu'on me dit quand je réponds je suis française, on me dit ouais mais d'où quand même. Donc ça, j'étais énervée, et puis c'est comme ça que c'est parti. C'est surtout ça a été vraiment le déclencheur quand je suis pas allée au travail, parce que c'était pas férié. Et je m'en rendais pas compte. Avant, j'étais étudiante. Enfin, généralement, j'étais en vacances à cette période-là. C'était pas un souci. Là, je travaillais, j'étais dans le monde actif. Et en fait, c'est une absence injustifiée. Alors que pour moi, c'était très justifié et justifiable. Et c'est comme ça que je suis un peu tombée dedans. Voilà, j'ai rencontré un peu des gens à gauche, à droite qui travaillaient sur la question. Et
plus à gauche qu'à droite.
Et c'est comme ça que c'est parti. Mais j'ai envie de dire, c'était une bonne chose quand même que ce soit à cause du fait que je sois énervée. Parce qu'à ce moment-là, en fait, c'était plus facile à justifier pour moi, en tout cas. Sinon, j'aurais attendu d'être guérie, je pense.
Alors moi, c'était mon premier confinement personnel. C'est-à-dire qu'il y a... j'ai eu un accident de voiture et je me suis retrouvé sur un fauteuil roulant. Et à l'époque, j'étais sportif, danseur et tout. Et quand je me suis retrouvé sur le fauteuil roulant, tout ça, je ne pouvais plus faire. Et donc, j'ai fait mes études sur Paris et je traînais toujours au centre Beaubourg parce que la seule chose où je pouvais ne pas m'ennuyer, c'était en lisant des livres. Donc, j'ai commencé à ouvrir des livres. Et un jour, je ne sais pas, j'ai trouvé un petit livre dans le centre Beaubourg. C'était une sorte de mouvement indépendantiste martiniquais ou guadeloupéen. Je ne savais même pas que ça existait. Et là, j'apprends une histoire qu'on ne m'avait jamais apprise, comme quoi on avait toujours lutté, comme quoi on avait toujours été fiers. J'ai entendu deux noms que je ne savais pas. Je dis, mais attends. On m'a donc menti à l'école. Comment cela se fait? Et là, j'étais choqué. Et à partir du moment où j'ai commencé mon initiation, alors j'étais en colère, parce que je déteste qu'on me mente. Donc je dis, toutes ces années, donc on m'a menti. Et suite à ça, bah, j'ai commencé vraiment à prendre position. Quelques années après, j'ai eu mes enfants et je me suis dit, mais dans quel monde mes enfants vont grandir? C'est pas possible qu'ils vivent galère que nous. Moi, j'ai grandi ici, dans les quartiers. Donc évidemment, c'était arrestation, c'était contrôle de policiers, c'était des claques dans la tête, c'était des insultes, des flics, c'était l'école qui nous disait qu'on n'y arriverait jamais. Moi, mes profs me disaient à l'époque que je ne dépasserais pas la période des 20 ans, je serais sûrement mort avant. Et l'un de mes rêves, c'était d'être kiné, et on m'avait dit, oublie, c'est pas possible, c'est pas à ton niveau. Bon, pour la petite histoire, je suis kiné maintenant.
Et un très bon.
Et t'as plus que 20 ans. Et t'as plus que 20 ans.
Et donc, c'est tous ces enchaînements qui ont fait que je voulais quelque chose de meilleur pour mes enfants à venir. Ils n'en avaient pas encore. Et c'est ça qui a fait que je suis rentré dans le militantisme, en fait. Ouais.
Donc, deux énervés.
Ouais, deux fâchés, ouais.
Ben moi, c'était un peu ça. J'étais choqué. J'étais lycéen, en fait. Et on est parti sur un mouvement de grève. Au départ, on manifestait pour faire libérer un rasta de Dominique qui était condamné à mort. Et ça a tourné pour des questions d'internat qu'on voulait augmenter. Et puis, en fait, tout le pays était sous pression à ce moment-là. Il y a eu une grande grève générale, donc on est apparu comme ceux qui avaient un peu lancé la grève. Et au même moment, donc, les travailleurs de la banane se sont mis en grève. Et c'était essentiellement... Alors, j'étais au lycée en ville, à Fort-de-France. Mais la grève de la banane, c'était dans mon bled, là, à 40 km, dans le Nord perdu. Et il y a eu vraiment une répression terrible d'hélicoptères. Les militaires ont tiré à la mitraillette sur des gars qui manifestaient dans les bananeraies. Et il y a eu un mort. Et le jour de l'enterrement, on a découvert le corps d'un deuxième qui, lui, était un pote, un gars un peu légèrement plus âgé que moi, et qui était de mon village. Il a été retrouvé sur une plage torturé, etc. Et ce jour-là, donc, pour la première fois, il y a eu, puisque c'était l'enterrement du premier mort, donc il y avait tous les militants étaient rassemblés, et j'ai vu le drapeau martiniquais la première fois ce jour-là. Et j'ai eu une espèce de frisson parce qu'il y avait le drapeau français. Enfin, les choses devenaient claires. Il y avait le drapeau français et en face, un drapeau qui était le nôtre. Avec ce martyr qui était là, on a complètement enseveli ce mec. C'est-à-dire, on n'en a plus jamais parlé, aucune enquête, rien du tout. Si bien que cette année, après, depuis peu, j'écris des pièces de théâtre et j'ai obtenu un prix en Martinique, un des prix prestigieux en langue créole. Parce que j'ai écrit une pièce de théâtre sur ma génération d'adolescents et la mort de ce jeune qui est resté sans réponse. Ça m'a permis aussi de revenir sur mes débuts en politique, etc. quoi. Mais c'était ça le détonateur, en fait.
Merci pour vos témoignages. Je propose qu'on fasse une petite pause musicale avec un morceau choisi par Laura.
Donc pour la promotion de l'exposition Black Panther Party, donc du film au Black Panther Party, on a décidé d'utiliser le morceau de James Brown, Say It Loud, et c'est ce qu'on a utilisé pour les réseaux sociaux pour faire la promotion. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ce morceau-là.
Laura et Michel vont devoir partir car Laura a un train pour rentrer en région parisienne, mais avant tu voulais nous dire quelque chose.
Exactement. Laura, elle vous donne rendez-vous avec toute l'équipe de la Ligue panafricaine Imoja pour la journée des enfants afro-descendants, afro-ascendants, afro-africains noirs 2023. Donc ne loupez pas cette opportunité parce que ça a eu un franc succès l'année dernière. C'est pour ça qu'on reproduit ça dans trois villes. Cette année en juin, donc le samedi 17 juin en Île-de-France, week-end 1er de juillet à Grenoble et à Toulouse également. Donc restez connectés sur LPU Umoja. Merci.
Merci, merci à vous deux d'être venus en speed après votre atelier, entre merci. L'atelier et le train. Ça faisait vraiment plaisir de vous recevoir.
Au plaisir, oui, à très bientôt.
Alors, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Campus Grenoble, 90.8 FM, et c'est l'équipe de Micro-Ondes qui invite des personnes d'exception qui ont participé au mois décolonial. Et là, reste avec nous Juanita et Kenja pour cette dernière partie d'émission. Et juste avant la pause musicale, Kenja, tu nous parlais de ce drapeau martiniquais. Il y a eu un peu de l'actualité ces derniers temps. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé?
Alors, il faut dire que l'épisode du drapeau, il pourrait paraître anecdotique, mais en fait, il s'insère dans une séquence avec beaucoup d'éléments, beaucoup d'effervescence, beaucoup de fureur même. Et voilà, on a l'impression que déjà depuis un peu avant le Covid, donc l'actualité, c'était l'empoisonnement au chlordécone. Ensuite est venue cette question d'obligation vaccinale où les Antillais ont réagi très violemment, donc en s'opposant à l'idée même d'être obligés. Et depuis, les choses s'enchaînent, etc. Et là-dessus, le drapeau, la question du drapeau, elle est venue vraiment comme un symptôme. Parce qu'il faut bien voir que c'est surtout la jeunesse qui porte cette revendication, même si la question elle est pendante depuis une quarantaine d'années. La génération actuelle en a vraiment fait un objectif. Et on a vu tout le long de ces 10 dernières années les hommes politiques jouer avec ça, quoi. Ils ont tourné autour, ils ont essayé d'imposer leur vue, et à chaque fois il y a eu des réactions. Et donc le dernier épisode, c'était que l'avant-dernier épisode, c'était que le drapeau qui avait été choisi après une consultation par le précédent leadership politique indépendantiste, entre guillemets, avait été invalidé par l'État. Le préfet a invalidé le drapeau au lambi, etc., qui faisait rigoler tout le monde.
Alors, je me permets de te couper parce que, pour le coup, quand on a regardé d'un point de vue un peu lointain, nous, en tant que personnes vivant sur le territoire hexagonal et ultramarin, en tout cas d'origine, pour nous, ce vote-là, c'était vraiment une mascarade.
Tu parles duquel ?
Du vote du lambi, là.
Ah oui, du lambi. D'accord.
Parce que y a, dans une consultation et dans un vote, il y avait des choses qui étaient... Ça en devenait presque ridicule. Il n'y avait pas le droit de réutiliser des drapeaux qui existaient déjà. Il n'y avait pas le droit de réutiliser les couleurs du drapeau qui existait déjà. Et au moment de voter, c'est quand même un vote, même quand on vote pour le président de la République, on a le droit de voter blanc, en fait. Et là, il n'y avait pas cette catégorie. Tu votes pour l'un ou l'autre des drapeaux, et si tu n'es pas content, tu ne votes pas. Voilà. Il n'y avait pas de possibilité, ne fût-ce que de voter blanc, ne fût-ce que de voter autre. Non, non. C'était soit tu votes pour un des drapeaux qui avait été validé en amont par la CTM, soit tu ne votes pas. Voilà.
Alors, il y avait des points encore plus problématiques. C'était que, quel que soit le vote, en fait, le dernier mot revenait au président de la CTM. Et ça, c'était vraiment... pour nous, c'était caricatural. Toujours est-il que... Alors, il en est sorti un drapeau au lambi qui est devenu la risée de toute la jeunesse, etc., avec des mèmes tous les jours qui sortaient, voilà. Et puis du coup, voilà, ça a été invalidé. Donc, il y a eu un basculement de la majorité à la collectivité territoriale de Martinique, CTM. Et donc, le nouveau leader a estimé qu'il allait repartir un peu sur, pareil, un vote par Internet et tout ça. Et il y a eu levée de bouclier en disant, d'ailleurs... C'est un groupe d'amis avec qui on a entamé une discussion sur est-ce qu'on peut considérer que la démocratie dorénavant, ce sera Internet, etc. Toutes ces questions-là. Comment on peut valider un corps électoral par le net, sachant que les gens peuvent voter de partout dans le monde et tout ça. Et c'est à ce moment qu'ils ont réalisé que techniquement, il n'y avait pas les garde-fous qui permettaient de garantir quoi que ce soit. Et donc, ils ont prouvé qu'un individu pouvait voter plusieurs fois, que des votes venaient d'ailleurs, donc que c'était orienté et tout ça. Malgré tout, donc, la consultation suit plus ou moins son cours avec des interruptions, des arrangements et tout. Et à la fin, il reste deux drapeaux. Le drapeau que toute la jeunesse supportait, qui était hérité de notre histoire, qui était le fameux drapeau dont je parlais là,
rouge-vert-noir.
Et une espèce de variante du rouge-vert-noir avec un colibri, et porté par une influenceuse qui a très très mauvaise presse dans le pays, qui est jugée assez durement par la jeunesse, etc. Et il se trouve que le président, enfin l'Assemblée, donne la priorité à ce drapeau contesté dès le début. Et là, il faut savoir qu'il y avait un prix et tout ça. Donc les gens, ils ont subodoré une espèce d'arnaque. Il y a pas mal de bruit qui courait sur des relations présupposées entre le président et cette influenceuse, etc. Parce que, bon, il faut voir le personnage aussi. Et là, la jeunesse a réagi en bombardant les sites de cette influenceuse. Mais vraiment une campagne assez haineuse, mais une campagne, je dirais, internet. Une campagne de communication. Il n'y a pas eu de violence physique, il n'y a pas eu de choses comme ça. Mais tellement violent qu'elle, la fille, elle a fini par se rétracter, à retirer sa proposition. Et donc, il ne restait plus en lice que ce fameux drapeau rouge-vert-noir que la jeunesse supportait et voulait. Et donc là, officiellement, il y a eu un vote à l'unanimité de la collectivité. Le drapeau a été intronisé. Il y a eu un hymne qui a été choisi, qu'on écoutera un peu plus tard. Et c'était marrant parce que avant-hier, c'était le lever officiel et le lever officiel et j'allais dire solennel pour la première fois, donc lever du drapeau. Et le fameux leader en question qui s'appelle Serge Letchimy, il lève le drapeau à l'envers. Et il avait fait plein de discours pour dire que dans le fond, c'était son choix, etc. Il avait fait plein de discours pour essayer de faire croire que voilà. Et en fait, non. Il lève le drapeau à l'envers et toute la Martinique voit bien que ce mec, c'est un job, quoi. Le mec, il s'en fout, en fait. Et qu'il n'a aucun intérêt à ça.
Kenja parlait tout à l'heure de la langue créole. Et Juanita, toi, tu as choisi de nous faire écouter un morceau où justement on peut entendre cette langue. Tu peux nous en dire plus ?
Alors, un morceau d'une artiste que j'apprécie beaucoup, qui est vraiment empreint de sensibilité et d'émotion. C'est un morceau de Meryl qui s'appelle Béni, qui est un morceau en créole intégralement. Ce que j'apprécie avec cette artiste, c'est que vraiment, elle nous emmène dans l'antillanité. On devient avec elle. Martiniquais le temps d'un instant, parce que même dans sa parole, dans ce qu'elle dit, elle transmet un message, elle nous emmène avec nous dans son univers. Et ce que j'apprécie particulièrement avec ce morceau, c'est qu'elle dit une phrase qui pour moi est pleine de sens et en même temps tellement empreinte de douceur, de générosité, de bienveillance. Elle dit: faiblesse, moi, c'est de rester humaine. Sa faiblesse, c'est de rester humaine. Ça, c'est une émotion. Ça suscite en moi. J'en ai des frissons. J'en parle, j'en ai des frissons. Elle a cette manière d'amener, de par le créole, son maniement de la langue, cette faculté d'amener à l'émotion. Elle a cette faculté d'amener à l'émotion. Et elle assume sa sensibilité. Et ça, j'apprécie d'autant plus. En tant qu'ultramarine, j'apprécie d'autant plus.
Et on se retrouve après avec nos invités.
En béni, en béni. parabé, c'est comme moi à niveau, c'est messieurs pour éviter les coups bas sa logique. Moi de moi qui sont en café, en qui répondre, et puis en y'a ce fait émoji. Faiblesse procédure et c'est humaine, ça impossible par ressenti sentiment. Ça tend du gros gentil humaine, les erreurs du passé seront mes sentinelles. Si vous y connaissez tout en moi, ça bizarre, pas senti dans moi, toute bague est brisée. Mais je me trompe avant de partir le matin, je mets mes plus beaux habits. Moi je tombe au jardin, moi, mis de finger et c'est pissé. Pas même moi pour pas moi, vitamine, c'est quelque chose par jour pour mener la vie saine. En lampade, en poche prince, et toutefois en t'effet fausse route. En bambi, grand joker, en cas sorti, si ni en doute. Ça veut la vie arrête, mais ça t'est pris. Puis ça qui ça ouvre tout, moi à t'es pas oublié en bagay capitale. En béni, 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 mon Dieu pas qu'à périr en linge sale. En vrai si yo t'es ça va qui point, yo peut parler, yo peut parler. Spéculation c'est beau père, à tout cas pour plier, yo peut oublier, yo qui calé. La vérité est dans la bouche des membres puis aux parents qui connaissent pas le répit. Moi j'ai un assiette, poche la rêve, ta dada la mate, c'est un artiste. En lampade, en poche prince, si toutefois on t'a fait fausse route. En bambi, grand joker, en pas sorti, si ni en doute. Ça veut la vie arrête, mais ça t'est plus, puis ça qui ça ouvre tout, moi à t'es pas oublié en baguette capitale. En béni, 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 je mangeais pas qu'à périr en l'espace. En lampade, en poche prince, et toutefois on t'a fait fausse route. En plan big, grand joker, sorti si ni en doute. Ça fout la vie arrête, mais ça t'est plus. Puis ça qui ça ouvre vous, moi à t'es pas oublié en baguette capitale.
Et vous êtes toujours à l'écoute de Radio Campus Grenoble 90.8 et c'est donc l'équipe de micro-ondes qui prend les ondes pour faire un retour sur le mois décolonial avec Ali Babar Kenja et Juanita, notamment pour échanger sur la situation de Martinique. Kenja, tu parlais récemment du drapeau. Quelles sont les autres actualités des luttes en Martinique ?
Dans le pays, il y a vraiment la montée de tensions et de pressions très très fortes. La question du chlordécone notamment a rebondi avec un non-lieu de la justice.
Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Bon, moi, le chlordécone, on pourrait faire plusieurs émissions dessus, mais carrément. Est-ce que ça vous dit l'un ou l'autre de nous dire en quelques mots c'est quoi cette problématique pour les personnes qui connaissent pas.
En fait, le chlordécone, c'est une molécule qui est utilisée dans l'agriculture contre certains parasites. Et notamment des parasites qui assez récalcitrants de la banane qui s'appelle le charançon noir. Et donc c'est un produit qui a été utilisé jusqu'à ce qu'aux États-Unis il y ait eu un grave accident qui a démontré sa toxicité. Donc interdit aux États-Unis, puis interdit en France. Et je passe les étapes, hein, mais en dépit de cette interdiction,
En France hexagonale.
Mais il n'y a même pas lieu de préciser, c'est la France, quoi. Interdit en France. Et puis, les barons de la banane, les colons, ont œuvré pour obtenir des dérogations en disant, s'il n'y a pas de dérogation, la banane, c'est mort. Et si la banane, c'est mort, l'emploi, etc. Ils ont fait tout un certain nombre de chantages. Donc, il y a eu plusieurs ministres de droite, de gauche, socialistes, RPR, etc., qui ont validé une série de dérogations successives, alors qu'on savait que ce produit était toxique. Mais ce qu'on ignorait, c'était la toxicité maximale de ce produit. C'est-à-dire qu'il a contaminé les terres, les rivières, puis la mer, donc les pêcheurs, enfin, ça a bouleversé la vie de tout le monde. Il y a eu une évaluation des dégâts corporels. Donc les Martiniquais sont le plus haut taux de cancer de la prostate au monde. Il y a des problèmes endocriniens, notamment chez les femmes, etc. Ça se transmet au bébé.
Taux de naissance prématurée.
95% de la population en Martinique, 97% en Guadeloupe contaminée. Et un produit qui reste dans le sol entre 500 et 700 ans. Voilà ce qu'on en pense.
Et ce que je voulais ajouter également, c'est que, indépendamment du fait que ce soit déclaré dangereux et toxique aux États-Unis dès années avant, les États-Unis ont décidé de bloquer la production. Donc en fait, le seul laboratoire qui produisait cette molécule a arrêté d'en fabriquer. Et là encore, des dérogations interviennent pour autoriser le rachat du brevet et l'ouverture d'un laboratoire, du coup en France, puisque c'était un laboratoire en Martinique, pour l'ouverture d'un laboratoire pour pouvoir refabriquer la molécule qu'on ne trouvait plus, puisque les stocks se sont écoulés au fur et à mesure assez rapidement. Mmh. Donc, c'est pas juste ils ont donné des dérogations pour l'utilisation. Ils ont carrément donné une dérogation pour refabriquer un produit qui est interdit.
Ils ont poussé le vice. Donc, ça c'est intervenu pendant un moment. Quand ils ont vu cette fabrication sur le sol français et tout, ça risquait vraiment de poser problème. Là, ils ont viré le truc et le produit était fabriqué au Brésil et conditionné sous un autre nom pour être vendu aux Antilles. Et là, les colons ont constitué des stocks. Donc à chaque fois, les dérogations avaient pour but de leur permettre d'écouler les stocks. Mais ils les reconstituaient de manière illégale. Donc les stocks, il y en avait des tonnes et des tonnes.
Il y en avait pour environ 40 ans d'utilisation, en fait. Ils ont fait des stocks sur les trois dérogations, qui représentaient en tout environ 4 ans. Ils ont constitué 30 ans de stock d'utilisation en tout.
Donc ça, c'est quelque chose qui a émergé. C'est une problématique qui a émergé, mais vraiment noyée, toujours noyée. Et il a fallu l'intervention d'un professeur qui a débarqué, professeur Bellepomme, je me rappelle, dans les années 80-90. C'est là où vraiment le scandale... En fait, le scandale a éclaté, vraiment, lorsque une cargaison de patates douces originaire de Martinique a été testée au Havre. Et donc, à ce moment-là, ils ont vu que c'était empoisonné. Donc, elle a été interdite. Et la presse française s'est fait l'écho du chlordécone à ce moment-là. Et donc, les affirmations du professeur Bellepomme qu'on faisait passer pour fou ont été validées. Mais on découvrait les choses au fur et à mesure, comme par exemple... le fait que toutes les canalisations d'eau sont... Alors, le problème, il était... Les sources sont polluées au chlordécone, les sources d'eau. OK. Donc, ça veut dire que l'eau qu'on boit, puisqu'on est sur une île, est infectée. Du coup, sans même enquêter ou faire la lumière sur l'histoire, ceux qui savaient au Conseil général à l'époque ont décidé de mettre des filtres à carbone qui étaient supposés être suffisamment efficaces, et c'est vrai, ils sont efficaces, ils retiennent les molécules de chlordécone. Donc l'eau qui sort de l'usine, elle est nickel, elle est pure. Seulement, elle va dans des tuyaux qui sont gainés de boue, qui pendant 30 ans sont des buts toxiques, quoi. Et le second problème aussi, c'est qu'on s'est tellement focalisé sur le chlordécone qu'on ne se rend pas compte en fait que notre problème, c'est un problème de cocktail de pesticides. Parce qu'il y a l'équivalent dans la canne, ça s'appelle Azulox. Et il n'y a pas que les glyphosates et tout ça, c'est aussi pour nous. Et donc ces boues-là qui gainent l'intérieur des conduites d'eau sont toxiques. Donc l'eau, elle sort pure de l'usine, mais elle nous arrive polluée. Et on boit de l'eau chlordéconée. Voilà. Donc tous ces éléments-là sont... En fait, les gens ont pris conscience très lentement. Et moi, j'associe en fait la montée d'une génération, je veux dire, de jeunes activistes, etc. Bon, c'est eux qui ont déboulonné les statuts, c'est eux qui... Je veux dire, il y avait tout un ensemble de choses pour permettre de comprendre que, voilà, on était empoisonnés, on était... Toute notre condition, qu'elle soit sociale, économique, professionnelle, intellectuelle et tout, était à tous les niveaux était affectée par les rapports de force tels qu'ils existaient depuis si longtemps. Et là, les jeunes se sont mis à vraiment vouloir bousculer un peu les choses. Donc il y a eu cette poussée de radicalité qui... alors avec les confinements et tout, ça a tourné à des mouvements sociaux. Et là, en ce moment, ce qui se passe, c'est que il y a, alors ça, j'en parle comme, je dirais presque ce sont mes collègues, parce que c'est un peu le travail que je fais en Martinique. Lorsqu'il y a des mouvements sociaux comme ça, les élus sont complètement démunis, ils n'ont plus accès à la jeunesse. Donc ils passent, bien sûr, par ce qu'on appelle dans les quartiers les grands frères. Et les grands frères, donc, sont ces gens qui, soit professionnellement, soit par vocation associative ou autre, jouent un rôle d'intermédiaire et cherchent à définir des deux côtés des solutions. Donc les grands frères de Guadeloupe ont joué ce rôle pour empêcher que le mouvement social, après le confinement, puisse exploser. Vraiment, c'était mal barré. Il y avait des tirs, les jeunes tiraient à balles réelles sur les flics et tout ça. Donc ça risquait de déborder. Et ce qui s'est passé, c'est que suite à l'opposition à l'obligation vaccinale, suite à cette espèce d'unanimité de la population, enfin du peuple, à ne pas se faire vacciner, on a vu un raidissement. Et ceux qui ont payé, ceux qui ont été les symboles de tout ça, c'était les grands frères. Donc il y a eu... une dizaine, puis maintenant ils sont sept, un peu leaders comme ça d'influence, à être emprisonnés, soi-disant qu'ils auraient, eux, organisé les révoltes, donc avec vraiment un traitement de l'isolement, on les a envoyés en France, en Martinique, pour qu'ils ne voient pas leur famille. Là, par exemple, il y a eu toute une mobilisation pour permettre qu'un de ces... de ces emprisonnés puisse voir sa fille, qui une petite fille de 5 ans qui allait être opérée d'une tumeur au cerveau, qui risquait d'y laisser sa vie. Et on refusait absolument qu'il puisse voir sa fille une dernière fois ou avant l'opération, quoi. Il a fallu vraiment une mobilisation pour que le gars...
Que les médecins l'ont exigé. Hein,
il a fallu une mobilisation pour qu'il puisse avoir 2 heures.
Deux heures
de... voilà. Et ça révolte. Donc, il y avait en ce moment en Martinique, donc jusqu'à la semaine dernière, il y avait une occupation d'un espace, d'un square en plein Fort-de-France. Et c'était devenu la cour contre non-lieu. C'est-à-dire la cour. Donc, la cour, chez nous, c'est vraiment l'endroit où on se rassemble. La cour contre le non-lieu. Et l'espace, l'espace a été aménagé au fur et à mesure et c'est devenu un vrai village. Et du coup, y a eu une conjonction d'autorités plus ou moins proches du mouvement et tout, qui ont décidé qu'il fallait y mettre fin. Et donc ça a encore emmené un cran supplémentaire. Là, ils ont été évacués, mais avec un ressentiment et la promesse de riposte qui annonce des temps un peu compliqués. La situation en ce moment, elle est vraiment... c'est tous les jours qu'il y a des rebondissements comme ça. Alors, il y a eu aussi récemment un élément qui venait de la Guadeloupe. Donc, une personne âgée rentrée chez elle en voiture, contrôle d'identité. Et en fait, le mec, il est plaqué au sol. Et on a la chance que juste en face de l'interpellation, il y a une caméra. Donc on a toutes les images. Le mec se retrouve à l'hôpital, il meurt. Il meurt dans la soirée avec deux vertèbres brisées. Et des séquelles, etc. Et Donc, pour nous, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Il y a le film. On voit déjà qu'on le sort de la voiture, il se cogne la tête, il tombe. Et après, il lui tombe dessus, sur le dos et tout, colonne vertébrale brisée. Donc, c'est pour nous. Eh bien, le procureur a décidé qu'il n'y a pas lieu de déférer les gars en donc une procédure quelconque, parce qu'il ne voit pas. Il dit qu'ils ont fait ce qu'on leur demande de faire. Donc, il n'y aura pas d'instruction, il n'y aura pas de procès, il n'y a rien. Et là, c'est l'explosion. C'est comme des couches qui se rajoutent. Et les gens, ils hallucinent qu'ils aient mis si longtemps à comprendre en fait, que cette justice était une justice coloniale. Quoi. Et là, ils ont l'impression que la justice n'a plus aucun frein et que systématiquement, ça leur retombe dessus. Et que là, ça devient inacceptable. Donc aussi bien Martinique, Guadeloupe, Guyane, donc au niveau politique ça bouge aussi, les partis des différentes colonies se concertent énormément en ce moment, il y a eu beaucoup de rencontres et donc essayer d'organiser une riposte qui soit Martinique, Guadeloupe, Guyane mais aussi Kanaky, Tahiti, etc., Mayotte. Mayotte c'est un peu compliqué mais bon. Voilà, essayer de faire bouger. Et il faut dire que le pouvoir macroniste, il est vraiment très dur avec nous. C'est de tous les pouvoirs coloniaux qui se sont succédés sous la Ve République, c'est le seul qui ne fait même pas l'effort d'essayer d'organiser des choses pour les Antilles. Quoi. Il y a aucune loi spécifique, il n'y a aucune approche spécifique. Et tout ce qui est voté à l'Assemblée doit nous tomber dessus tel quel. Avec des contextes et des sociétés complètement différentes. Quoi. Donc voilà, là on voit bien, de toute façon chez nous, au second tour de la... Alors les gens chez nous en Martinique, ils ont voté premier tour 57% Mélenchon, deuxième tour 52% Marine Le Pen. Parce que chez nous, les gens ils disent tout sauf Macron, y compris Le Pen, c'est mieux que Macron. Et bon, c'est compliqué à comprendre pour... Voilà, une certaine génération, mais je pense que la nouvelle génération est beaucoup plus pragmatique et qu'elle mène ses combats en fonction des objectifs précis. Et là, il s'agit d'abattre le pouvoir macroniste. Quoi. Et, voilà. Et donc, juste pour terminer, au moment donc de l'adoption de notre drapeau, qui est le vrai drapeau historique martiniquais des luttes martiniquaises, rouge, vert, noir, il y a eu l'adoption de cet hymne dont on n'est pas encore habitué, mais que les gens reçoivent très bien. Et il y a eu un gros match Martinique-Costa Rica pour la Coupe, la Gold Cup d'Amérique latine. Et les gens étaient très fiers d'avoir un hymne, que l'hymne soit joué. J'ai vu les réactions, ils étaient très très fiers. Voilà.
Et avant qu'on écoute l'hymne, j'ai une question très naïve, mais ce que je ne comprends pas bien, c'est pourquoi s'il y avait déjà un drapeau, il a fallu re-voter pour un drapeau.
Bon, le drapeau, en fait, c'était le drapeau des militants. Les militants avaient imposé ce drapeau. Il faut parler d'un mouvement historique qui nous a marqués, qui date des années 60, qui s'appelle l'OJAM, Organisation de la Jeunesse Anticolonialiste Martiniquaise. Et cette organisation avait été interdite et ses leaders avaient été déférés tribunal en France dans les débuts des années 60. Ça avait été quand même une grosse marque dans notre histoire rebelle un petit peu. Et à ce moment-là, il y avait eu la création d'un drapeau et qui a été un petit peu porté par la jeunesse gauchiste, radicale, indépendantiste et tout. Donc ça a été considéré comme le drapeau des indépendantistes. Et tous ceux qui étaient favorables à la présence française, etc., leur drapeau, c'était le bleu, blanc, rouge. Et aborder la question du drapeau des indépendantistes, c'était tout dire. C'est-à-dire, nous, on n'est pas indépendantistes, nous, on veut rester français, donc il n'y a pas de drapeau qui compte. Donc la question d'avoir un drapeau proprement martiniquais, ça, c'était évacué. Sauf que maintenant, nous participons à pratiquement... toutes les institutions caribéennes, y compris sportives. Et lorsqu'il y a les manifestations sportives, chaque délégation est précédée d'un drapeau, etc. Et les jeunes sportifs martiniquais en avaient marre d'être précédés par le drapeau français. Et donc, il y a la possibilité dans la loi française d'avoir un drapeau pour des manifestations culturelles. Comme la Corse a son drapeau, comme la Bretagne a son drapeau. Donc, il y avait toute une précaution de prise pour expliquer aux gens que ce n'était pas un drapeau national, c'était un drapeau régional qui servirait juste pour le sport, pour la représentation de la collectivité. Mais les gens, ils ne l'entendaient pas comme ça, quoi. Ils voulaient leur drapeau historique, qui était un drapeau de lutte et qui n'était pas du tout un drapeau sportif, mais qui était le drapeau martiniquais. C'est comme ça qu'ils l'ont entendu. Et en fait, c'est comme ça qu'il s'est imposé. Même si les autorités vont continuer à dire que c'est juste un drapeau sportif et tout, les gens maintenant ils ont leur drapeau et ça fait chier tous les assimilationnistes, mais qui sont de plus en plus minoritaires parce que c'est des questions aussi de génération. Et que voilà, maintenant le fait que ce drapeau devienne officiel, ben, ça veut dire qu'il y a une génération rebelle qui a pris les devants, quoi.
Et puis surtout, il faisait écho au fait que. On avait déjà techniquement un drapeau régional, mais qui était un drapeau colonial. Si le drapeau avec les quatre serpents, le drapeau bleu avec les quatre serpents, c'était un drapeau colonial. Donc ça existait déjà en fait. Et c'était difficile de remplacer un drapeau colonial par juste le symbole. Juste le symbole, enfin juste le drapeau bleu, blanc, rouge qui revenait au symbole même de l'oppression. Et puis revenir à cette base d'avoir un drapeau pour vraiment nous représenter. Parce que du coup, ce que la CTM n'avait pas fait du coup il y a 3-4 ans avec le drapeau Lambi. Là, ils ont demandé à ce que ce drapeau-là... apparaissent effectivement dans les émojis, de manière plus permanente, etc., pour qu'il ait aussi sa légitimité comme un peu tous les autres.
Mais voilà. Pareil, le drapeau aux quatre serpents, donc c'est un drapeau bleu. C'était un peu lié au drapeau du Québec, qui a quatre fleurs de lys, vous voyez, dans chaque coin, mais là, c'est quatre serpents. Ben, c'est l'équivalent, en fait, du drapeau du sud des États-Unis. Vous voyez,
drapeau ce confédéré.
Drapeau confédéré, aujourd'hui, qui est banni parce qu'il est vraiment symbole de... etc. Ben, le drapeau aux quatre serpents, c'était l'équivalent, quoi. C'est le drapeau des colons qui retraçait l'histoire coloniale. D'autres, on ne pouvait pas se sentir proche, quoi.
Ben, merci beaucoup, c'était passionnant.
Merci à vous.
Franchement, on pourrait vous écouter parler pendant 18 heures. Malheureusement, on n'a pas 18 heures, mais bon, faudra revenir.
Mais c'est clair.
Et
c'est
du coup, on se quitte avec ce choix que vous avez fait de passer ce nouvel hymne martiniquais.
Hymne de la Martinique. Très fier.
Très, très fier même.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup de nous avoir reçus.
Merci à vous.
Il est pour nous sembler, mon maille, nos besoins riches les souder. Faudrait nous faire force pour sauver la terre qui fait nous ni manger joli. Antil, il est, mais on s'est dit c'est paradis. En morceaux de terre qui capote la vie, la natica. La victoire c'est pour nous si nous l'est. Nous partons là pour garder masse passée. Nous quatre bâtis pour nous avancer. Sans cesse nous montrer aux tes vaillants guerriers. C'est pour ça nous toute la qualité.
victoire, c'est pour nous.